La première partie du magazine des sports du lundi avec les résultats sur la scène nationale et internationale, notamment du football. Mickaël Juneski, c'était la fin de la 19e journée de Ligue 1 ce matin. L'OM a perdu sur le terrain de Nice en match de clôture.
Oui, une défaite des Marseillais, 2-0, plombée par des erreurs défensives. L'OM qui tombe donc chez les Niçois sans jamais avoir pu reprendre le dessus et qui perd l'occasion de réduire l'écart avec le Paris Saint-Germain en tête du classement. À l'inverse, Nice garde le cap pour se placer à un point du podium, désormais à la 4e place. Et puis, autre résultat important du jour, Nantes qui accroche l'Olympique Lyonnais et qui remonte par la même occasion à la 14e place. Les deux formations se sont quittées sur un score de parité, un but partout. Les joueurs d'Antoine Comboiré peuvent se satisfaire d'avoir évité la défaite contre le 6e du championnat de France, avec une égalisation qui est arrivée à la fin du temps réglementaire. Les Nantais ont même failli surprendre l'OL dans les arrêts de jeu. On écoute le coach de Nantes, Antoine Comboiré.
C'est un très bon point de prix parce que c'est la particularité de cette équipe, de ces joueurs qui, dans la difficulté, ils se révoltent. Mais moi, j'aurais bien aimé aussi que, quand on démarre les matchs, on soit plus impactant, plus agressif, plus haut, donc pour justement récupérer des ballons plus haut. Mais voilà, c'est aussi parce qu'on est aujourd'hui avec ce classement qui nous handicape, quoi. Donc on est toujours un peu, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises. Des fois, on recule un peu de trop parce qu'on pense qu'on va être plus solide, on va préserver notre but. Et puis finalement, dès qu'on est mené au score, il y a toujours cette capacité, parce qu'on a de la qualité donc, dans notre effectif, là, à réagir, à se révolter, donc à l'image de cette fin de match contre Lyon, quoi.
Voilà pour la réaction d'Antoine Comboiré avec son club qui est donc 14e de la Ligue 1. Les derniers résultats du jour. Brest a battu Le Havre sur le score de 1-0. Montpellier l'a emporté sur Toulouse 2-1. Et Lens s'est imposé face à Angers 1-0. Ce week-end, Monaco avait fait couler Rennes 3-2. Strasbourg l'avait emporté sur Lille 2-1. Le PSG et Reims s'étaient quittés sur un score de parité, 1-1. Enfin, Auxerre et Saint-Etienne en match d'ouverture avaient fait match nul, 1-1.
On va regarder maintenant les principaux résultats sur la scène européenne avant les prochaines joutes en Ligue des Champions.
Oui, on va commencer par l'Espagne et cette large victoire du Real Madrid sur Valladolid 3-0 avec un triplé de Mbappé alors que les Madrilènes se déplaceront en Champions League à Brest cette semaine. Le Barça aussi a offert du beau spectacle, un succès 7-1 sur Valence. En Allemagne, les joueurs de Stuttgart s'inclinent à Mayans 2-0 et ce juste avant de recevoir le Paris Saint-Germain. De son côté, le Bayern Munich s'est imposé sur Fribourg 2-1 pour rester en tête de la Bundesliga. En Italie, l'Inter Milan est en grande forme avec un succès sur Lecce 4-0. Les Milanais qui feront face à Monaco cette semaine. On signalera encore que Naples l'a emporté sur la Juventus Turin 2-1 et que la Fiorentina a battu la Lazio de Rome 2-1. En Angleterre, enfin, Liverpool continue sa marche en avant avec un succès sur Ipswich 4-1. Arsenal est deuxième après l'avoir emporté à Wolverhampton 1-0. Manchester City a battu Chelsea 3-1 et Manchester United l'a emporté face à Fulham 1-0. Mais Manchester United qui reste pour le moment tout de même 12e de la Première Ligue.
Le tennis et le rideau est tombé sur l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de cette saison 2025.
Oui, Yannick Sinner qui a décroché hier soir la couronne. L'Italien s'est imposé sur l'Allemand Alexander Zverev en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3. Il a surclassé son adversaire du jour pour aller chercher à 23 ans son troisième sacre en Grand Chelem et donc le doublé à Melbourne. Yannick Sinner, au vu de ses performances, qui s'est montré flatté d'être désormais comparé par Zverev à Novak Djokovic. On écoute le vainqueur de cet Open d'Australie.
C'est un compliment incroyable venant de Zverev. Tout le monde est différent d'un côté. Évidemment, j'ai quelques similarités avec le style de Novak. Je continue de penser que lorsque Novak joue à son meilleur niveau, c'est très très dur de le battre. Sur le plan du style de jeu, je me référerai à lui en essayant de comprendre ce qu'il faisait, comment il gérait les moments avec beaucoup de pression et les moments importants. Je continue de croire que nous sommes différents en tant que joueurs parce que tout le monde est différent, mais c'est certain que nous avons des similarités.
Voilà, et on rappellera que dans le tableau féminin, Madison Keys, l'américaine, avait créé la surprise samedi soir. Elle s'était imposée face à la Bélarusse, première joueuse au classement WTA et double tenant du titre, Arina Sabalenka, victoire de Madison Keys en 3-7.
Et puis toujours en Australie, il y avait du cyclisme et la fin du Tour Down Under. L'équatorien Jonathan Narvaez a terminé en tête du classement général. À 27 ans, il a devancé au terme des 6 étapes de la semaine l'Espagnol Javier Romo. Bastien Tronchon est le meilleur français. Il s'est classé à la 5e position. On passe maintenant à l'actualité du rugby qui est très riche. On va commencer par le rugby à 7 et une étape du circuit mondial à Perth. C'est toujours en Australie. L'équipe de France féminine a terminé sur le podium.
Une 3e place donc décrochée par les Françaises après avoir battu les Canadiennes dans la petite finale 14-7. C'est le 2e podium d'affilée des Bleus après le bronze remporté en Afrique du Sud. Elles avaient malheureusement subi la loi des Néo-Zélandaises en demi-finale. Une défaite 36-7. L'équipe de France messieurs s'est de son côté inclinée dans le match pour la 5e place contre les Fidjiens, 17-5, après avoir perdu en quart de finale face aux Australiens sur leur terre, 24-12.
Et pendant ce temps-là, c'était le dernier match de la 15e journée de Top 14 en métropole avec Toulon qui a dominé La Rochelle.
Oui, succès des Toulonnais à domicile face au Stade Rochelais, 45-26. Le RC Toulon qui conforte sa 3e place et qui réduit l'écart avec le duo de tête Union Bordeaux-Bègles-Toulouse. L'UBB qui s'est incliné face à Lyon ce week-end 22-20 et qui est désormais co-leader du classement à égalité de points avec le Stade Toulousain, tombeur de Montpellier 27-17. Perpignan l'a emporté face à Bayonne 16-11. Le Racing 92 a perdu à domicile contre Castres 27-20. Un succès précieux des Bretons de Vannes sur le Stade Français 33-28. La section paloise l'a emporté enfin sur Clermont 20-14. En bas de tableau, Vannes est toujours lanterne rouge mais à 4 points maintenant de retard du Stade Français et à 6 points du Racing 92.
L'événement à venir en rugby, c'est bien sûr l'ouverture du tournoi des 6 nations. Ce sera samedi matin pour nous. On va justement prendre des nouvelles de la préparation du 15 de France, notamment parce que Damien Penaud, blessé, ratera ce premier rendez-vous des Bleus.
Oui, l'ailier de l'Union Bordeaux-Bègles ne disputera pas le match d'ouverture de ce tournoi contre le Pays de Galles, blessé à l'orteil. Il doit observer une semaine de repos. Je rappelle que les Calédoniens Peato Mauvaka et Yoram Moefana figurent bien dans le groupe retenu pour ce premier match. Romain Taofefenua, lui, avait jeté l'éponge pour la préparation avec le 15 de France en raison d'une blessure au genou, mais il a tout de même retrouvé Marcoussi avec les Bleus après le forfait d'Anthony Jelonche. Le deuxième ligne, donc, Romain Taofefenua pourrait réintégrer les plans de Fabien Galthié et même, pourquoi pas, être présent dès le week-end prochain selon l'évolution de sa blessure.
L'actualité du handball maintenant et l'équipe de France messieurs qui a terminé la phase de groupe sur un sans faute au Mondial.
Oui, après leur dernière victoire sur la Macédoine du Nord ce week-end 32-25, les Bleus connaissent désormais leurs adversaires pour les quarts de finale. En ayant terminé en tête de leur groupe, ils héritent de l'Égypte pour ce début des phases finales. Les Pharaons, dont il faudra se méfier, ils avaient malmené la France aux Jeux Olympiques de Paris en phase de poule, tout près de faire chuter les Bleus, rejoints à la dernière seconde sur un but de Ludovic Fabregas, 26-26. La rencontre sera à suivre mercredi matin pour nous, avec le dernier carré évidemment déjà dans le viseur de l'équipe de France.
Allez, les sports mécaniques maintenant et Sébastien Ogier qui gagne encore une fois le rallye de Monte Carlo.
Oui, le vétéran qui brille toujours sur les routes de Monte Carlo. Ce 10e succès dans cette épreuve, dont 9 en WRC. Le pilote français a devancé son coéquipier chez Toyota, le gallois Elfyn Evans. Et puis un autre tricolore, Adrien Fourmeau, qui complète le podium pour ses débuts avec Hyundai. Sébastien Ogier, l'ancien septuple champion du monde, désormais engagé seulement sur quelques épreuves à la carte chaque saison depuis l'annonce de sa retraite, eh bien, prend encore une fois la tête du classement général.
Et on termine cette première partie du MAC des Sports avec du ski alpin et la belle performance du français Clément Noël.
Il a remporté le slalom de Kitzbühel en Autriche, l'une des plus prestigieuses étapes du circuit. Il est devenu au passage le slalomeur français le plus titré en Coupe du Monde. Et puis en biathlon à Antolsanterselva pour l'étape italienne de la Coupe du Monde, les tricolores étaient à la fête hier. Un doublé féminin sur le podium de la poursuite, Lou Jean Monod devant Julia Simon, et la victoire des messieurs sur le relais. Aujourd'hui, on signalera la 3e place des relayeuses tricolores derrière les Suédoises et les Norvégiennes. Le meilleur français en revanche de la poursuite masculine, c'est Éric Perrault. Il a terminé à la 7e place.
En Nouvelle-Calédonie, la saison des trails va bientôt reprendre. Un premier trail est prévu le 23 février. C'est le Blue Bat Trail. On en parle avec notre invité dans un instant.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Rentrée des classes, on a tous un peu la tête ailleurs et le budget pas au meilleur de sa forme. Alors imaginez, cette année, jusqu'au 16 février, Gémeaux vous propose un t-shirt ou un débardeur pour 10 francs. En effet, pour l'achat d'un short ou d'un bermuda en 4-12 ans, le t-shirt ou le débardeur est à 10 francs seulement.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Voir conditions en magasin sur article signalé dans la limite des stocks disponibles.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
Et pour parler de l'actu sport en Calédonie, on va s'intéresser, Michael Juneski, avec notre invité, donc à la rentrée des trailers, avec un événement en vue au mois de février.
Exactement, ce sera la rentrée en quelque sorte, hein, pour tous les amoureux de course en pleine nature. Julie Prenet de Pro Events, bonjour.
Et bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. La présentation donc de cette première épreuve que vous annoncez. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Oui. Le Blue Bat Trail, présentez-nous un petit peu cette épreuve qui va ouvrir le calendrier.
Alors le Blue Bat Trail donc du coup aura lieu le 23 février sur la commune de Dembéa, donc au Yala Ranch, directement auprès de l'association des cavaliers. Nous aurons 3 distances, donc le Trail Merel 15 km qui est réservé pour les confirmés. On aura le 10 km, donc le Yala Trail, accessible à tous avec du dénivelé quand même. Et on aura le parcours familial, la Hello aussi Family Trail, 3 km avec un départ à 11h pour celle-ci.
Alors déjà, j'ai envie de poser la question pour, on sait qu'il y a beaucoup, un large public hein, qui a pris l'habitude d'être fidèle à tous les rendez-vous organisés partout sur le territoire. Déjà, l'annonce de cet événement qui arrive pour le mois de février, ça a été pris comment la nouvelle? C'était forcément une grande satisfaction?
C'est une grande satisfaction pour les organisateurs aussi et pour les coureurs, parce que après cette année compliquée, on a envie de rebondir, on a envie de construire, on a envie d'évoluer, d'aller de l'avant en fait, et grâce à ces événements on arrive à aller de l'avant.
Voilà. Alors par contre vous êtes obligé évidemment de vous adapter, hein, c'est le cas pour tout le monde. Ce Blue Bat Trail, faut annoncer la couleur, vous avez vraiment décidé de miser sur les valeurs sûres, c'est ça le mot d'ordre.
Exactement,
en fait,
hein. Valeurs sûres, les 3 parcours qui ont très bien fonctionné l'année dernière et on sait que ça fonctionne, en fait. Mmh. Voilà, on a une belle équipe de bénévoles qui nous aide à mener à bien tous ces événements. Donc, c'est vrai que pourquoi changer cette année ? On réfléchira à des nouveaux parcours, à une évolution des parcours pour l'année prochaine. Mais pour cette année, on restera sur ces 3 distances.
Le choix aussi pour Pro Events, hein, évidemment, de lancer la saison avec ce Blue Bat Trail au départ du Yala Ranch. C'est parce qu'on sait que cet événement est toujours succès assuré. L'endroit, l'environnement, tout est là pour...
C'est un endroit magique. On a les animaux, on a la nature. Enfin, on a un contexte qui est vraiment, pour nous, organisateurs, grâce au Yala... Ça reste, entre guillemets, facile d'organisation avec la super équipe du Yala, quoi.
Alors, de manière générale, hein, Pro Events, qui a déjà planché et qui a plus ou moins un calendrier définitif pour les événements de 2025.
Oui, on a travaillé avec tous les organisateurs aussi. Il n'y a pas que Pro Events, il y a les autres organisations et la Ligue d'athlétisme avec qui on travaille chaque fin d'année pour créer le planning annuel de tous les événements, qui est bien chargé, bien sûr. Et nous avons la date du Blue Bat Trail, donc le 23 février, le Dea City Trail le 22 mars, le Trek Erythrine le 12 juillet, le Trail de l'Esport qui sera prévu le 3 août, et on a la Stage, qui aura lieu au mois de novembre.
Alors, évidemment.
Et on a aussi le côté VTT,
oui,
avec la Sud Tourisme VTT Pro Tour qui va se lancer avec la première étape, la BCI des Vassans le 13 juillet. Et l'Alliance Pérignon le 26 octobre.
Alors vous en touchiez un mot justement auparavant. Après évidemment cette année 2024 au constat qui a fait du mal pour tous les Calédoniens, oui, évidemment. 2025, ça va être quoi la volonté ? C'est avant tout de contenter les coureurs les plus aguerris, les plus téméraires, ceux qui raffolent de toutes ces épreuves organisées en pleine nature, ou continuer évidemment d'attirer toujours ce plus large public ? C'est ce qui se faisait petit à petit, populariser toutes ces épreuves.
On cherche vraiment à continuer à évoluer, à faire venir tout public sur tous nos événements, notamment moi qui travaille beaucoup dans des structures adaptées. J'aime bien quand nos patients, ils viennent, ils font les parcours accessibles. Bien sûr, tous les parcours ne sont pas accessibles, mais beaucoup peuvent l'être, avec les infirmiers qui les encadrent au quotidien. Et je pense que ça leur permet de faire une sortie cohésion et de voir aussi différemment les blouses blanches en dehors de l'hôpital ou des structures.
Voilà pour tous les auditeurs qui nous écoutent, pour ceux qui peut-être ne se sont jamais essayés à un trail, il y a ces fameux parcours, hein, on va dire
les... Randonnée ou chrono, on n'est pas pressé, chacun a son rythme, tant qu'on y trouve du plaisir, c'est le principal.
Voilà, et puis c'est l'occasion d'accéder à des spots parfois méconnus, parfois inaccessibles tout simplement.
Et privés aussi.
Voilà, ouais, privés tout
privé
simplement.
Et privés surtout.
Donc c'est ça aussi.
Voilà, pour lesquels on demande quand même des autorisations. On a tout un dossier qui est monté 3-4 mois avant l'événement. Donc c'est vraiment une organisation en amont. Et après, le jour J, eh bien... Feu patate, quoi. Il faut y aller.
Et puis l'ambiance, également toujours rendez-vous, ça c'est un élément important.
L'ambiance, on a les sourires, on a les coureurs, on a tout le monde qui nous pousse et quand on fait la hola de départ, eh ben là ça nous fait frissonner et on sait pourquoi on est là. En fait.
Un dernier mot global justement, il y a ce premier événement, vous en attendez beaucoup pour avoir encore plus de visibilité sûrement pour la suite du calendrier. Aujourd'hui c'est un appel hein, pour voilà, que continue de vivre toutes ces épreuves, tous ces événements populaires. Un appel aux sponsors notamment.
Oh oui, on appelle aux sponsors. Cette année, on sait que c'est compliqué pour tout le monde, mais une petite aide peut aider dans l'organisation, que ce soit eh bien, pour mettre des fruits sur les PC ou autre, médicalisation. Voilà, donc si vous avez un peu de temps, un peu d'argent, eh bien... N'hésitez pas à nous contacter.
En cas de réussite pour ce premier événement de l'année, ça pourra apporter beaucoup pour la suite.
Bien sûr, on travaille déjà pour 2026, pardon, et on espère que tous nos partenaires pourront revenir l'année prochaine.
Encore plus nombreux.
Voilà.
On redonne les inscriptions, évidemment, pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui souhaitent déjà.
Alors, c'est sur www.inlive.nc et juste la veille de la course, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez aller faire la foulée solidaire. Donc je vous laisse tapoter et aller repérer les petits parcours. Ça peut être un bon entraînement avant le Blue Bat Trail.
On aura l'occasion d'y revenir également à ce deuxième événement en vue. Julie Prenet de Pro Events. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci beaucoup.
Allez, l'actu sport en Calédonie pour terminer ce magazine des sports, les Officious, c'est aussi quelques nouvelles de sport de raquette hors du territoire.
Avec du padel d'abord en Polynésie française avec le P250 de la Padel Cup avec plus de 250 joueurs dont plusieurs professionnels espagnols qui étaient de la partie mais aussi une équipe calédonienne, la paire numéro 1 du territoire qui est composée de Lorenz Pesley et de Nicolas Ngodrella qui étaient invités sur ce tournoi qui se déroule à Tahiti depuis quelques jours. Je vous propose de les écouter.
Ben nous, on est très contents de venir à Tahiti. C'est la première fois qu'on vient pour un beau tournoi. Il y a des Espagnols. De rencontrer aussi les locaux, c'est vraiment un plaisir.
Moi, pour moi, c'est assez spécial parce que moi, je suis né ici, donc j'ai toute ma famille qui est là. Et se faire inviter avec mon partenaire Lorenz, ça a été vraiment un honneur car je voulais... Alors là, c'est un peu comme chez moi ici, donc je voulais être au niveau.
Moi, je voulais remercier tous les Tahitiens de nous avoir accueillis. Ils nous accueillent vraiment super bien et avec gentillesse et bienveillance.
On remercie à tout Tahiti. On savait en venant là qu'on allait être accueillis comme des rois. Et pour l'instant, voilà, la réputation de Tahiti est vraiment bonne. L'accueil est magnifique ici.
Et malheureusement pour Lorenz Pesley et Nicolas Ngodrella, ils se sont inclinés aux portes de la finale ce matin. Défaite en demi-finale donc contre le Tahitien Carl Yomes et l'Espagnol Jorge Angles. Ils disputeront dans l'après-midi la petite finale pour pourquoi pas terminer sur la troisième marche du podium. Du tennis aussi avec Maël Gérini qui participait en métropole au tournoi des Petits As, l'un des plus gros tournois au monde pour la catégorie 13-14 ans. Le Calédonien s'est incliné au troisième tour des qualifications contre Pierre Oudéa-Castera, fils de l'ancienne ministre Amélie Oudéa-Castera. Et puis de son côté, Maxime Chazal est au Brésil. Le Calédonien dispute en ce moment les qualifications au Challenger de Piracicaba, tournoi sur terre battue. Au premier tour des qualifications la nuit dernière, il a battu le local Roveri Sydney en 2-7 et affrontera l'Argentin Kestelboim la nuit prochaine. En cas de victoire, il intégrera le tableau principal de ce tournoi brésilien.